Florian Fabiri.
Bonjour.
Daniel Morin. Et nos invités Michel Blanc et Olivier Barou pour les Tuches. Les Tuches 4, enfin, les Tuches 4 sortent en salle aujourd'hui.
Tourné en 2003 quand même.
Avec tourné en noir, à l'époque du muet c'était tourné, c'est ça qui est fort. Un très bon cru à nouveau pour ces Tuches, on va en parler avec Michel Blanc et avec Olivier Barou, acteur, auteur et réalisateur. Qu'est-ce qu'il y a,
Morgane? Non, parce que je viens de me rappeler d'une vanne qu'il y a dans le film dont on s'est parlé avec Leïla qui nous a fait beaucoup rire. On leur dira.
Alors gardez-en.
On leur dira.
Gardez-en sous le pied.
Et en même temps, c'est toujours dangereux de raconter une vanne dans un film.
Celle-là, ça elle passe.
Franchement, elle passe avec tous les âges.
Tous, t'es sûr?
Quel suspense. Bon, ok, on découvrira ça tout à l'heure. Pour l'instant, blind test.
Morgane Blonde.
Sorry.
Prénom d'abord, Fanny.
Je sais, mais je l'ai oublié.
C'est Fanny.
Ah, merci.
Call me by your name.
Qui chante ça?
Leïla.
Oui.
Non.
Fanny. C'est Fall to the Floor. Et ouais. C'est Starcella.
Bien joué.
Mais ça commence comme autre chose.
Ouais.
C'est vrai?
Comme Two Prince.
Ça. Ouais, enfin, comme tous les morceaux qui vont se faire les batteries.
Ça commence comme Two Prince. Oui, c'est ça, Two Prince.
Voilà. Non, c'est plus ça que Two Prince.
Morgan.
Fanny.
C'est Brianna et Paul McCartney qui nous. Ma coupe qui va marquer 12 points.
Mais d'où on reconnaît avec une note?
Bah, tu reconnais mon temps comme ça, toi.
Je peux dire que tout est sous scellé, là. Personne ne peut tricher. Personne ne peut plus tricher. J'avoue qu'au début du blind test, je me suis fait avoir deux, trois fois, mais là, c'est fini. Plus personne ne peut tricher. Waouh!
Oh, distribution.
On a tué l'imprimante. Attention, qui chante ça?
Daniel.
Morgane.
C'est pas chanté.
Morgane.
Vivaldi.
Vivaldi. Les quatre saisons.
Et les quatre saisons.
Ah non, c'est pas moi qui
chante. Non, c'est pas les quatre saisons. C'est quelle saison? Faut trouver.
T'as rien dit.
C'est l'hiver.
Je dis Daniel, c'est pas une chanson. Je dis les quatre saisons et on donne le point à Morgane.
Non, t'as dit c'est pas une chanson, j'ai pas entendu c'est les 4 saisons.
Mais prends-le vraiment, c'est pas très grave.
C'est pas de ta faute.
L'esprit de Noël, allô, Daniel,
c'est
je te
pas
le donne.
Faute.
Et c'est quelle saison?
C'est Daniel, ok, c'est Daniel.
Vous allez vraiment vous battre pour
c'est
ça?
C'est l'hiver.
Ah oui, mais carrément, moi, je dépouille.
Non.
Ben non.
Bah quoi? Eh ben je... Ah non, c'est pas l'hiver.
Mais c'est tellement l'automne.
C'est pas le printemps.
Non.
Ah, c'est
les gars, il y en a que 4.
Non, c'est l'été.
Non, moi je crois qu'on est sur
l'été.
Je crois qu'on est sur une entre-deux saisons. Un été indien là.
Il y a saison.
Je m'en fous. C'est l'été. Un point pour Daniel, un point pour Fanny, deux pour Morgane.
C'est pas l'été.
Si, c'est l'été.
Si, mais c'est contre-intuitif à chaque fois.
Tanguy.
Oui.
I'll be there. Claude François, sinon.
Non.
Ou l'autre, quoi.
Non.
Bah non, donc les autres.
Est-ce que t'as trouvé le thème du blind test?
Ah non, pas du tout en fait.
Bah c'est 4.
Ah, c'est 4, donc Fort Tops, ouais. Bravo.
J'avais pas compris le thème, moi.
Moi non plus, hein. Moi non plus, j'avais même pas cherché, en fait.
Si, arrêtez.
Et ça présente le JT.
Oui, non mais d'accord, maintenant oui. Bien sûr.
Tout est 4. Attention.
Morgane.
Oui.
C'est Madonna.
Oui.
Justin Timberlake.
Oui. Et le titre
4 Minutes.
Joli.
Ah oui,
ah oui, là.
Clairement.
4, 4, 4.
Et voilà, 4. Attention, c'est le dernier titre qui peut rapporter justement 4 points, puisque nous fêtons les Tuches 4. Oui, c'est ça le concept.
Voilà, on est fatigué.
C'est ça le concept. Le concept est d'arriver
au
dernier titre.
Oui.
Qui chante ça?
Daniel. Tanguy.
Oui.
Nougaro.
Daniel.
Oui, voilà.
Et moi, j'attendais 4 mots sur un piano.
J'avais failli dire Michel Legrand, mais
c'était 4 boules de cuir. Oui, bien joué, Daniel Morin, de remporter ce blind test. Et merci d'accueillir Olivier Barou et Michel Blanc pour
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Les Tuches 4, c'est pour ça que nous avons décliné ce chiffre 4, Olivier Barou, qui est un peu le papa ou la maman avec Jean-Paul Rouve de ces Tuches, Olivier.
Alors, oui, en plus Philippe Michelin, Julien Hervé, Nassim Chekaou, on est 4, 5 à écrire.
C'est élégant de citer tout le monde.
Ah, mais c'est important.
Pourquoi ?
Parce que le papa, le vrai papa des Tuches, c'est Philippe Michelin, qui à 10 ans m'a appelé, m'a dit j'ai un scénario qui est dans un tiroir, je sais pas quoi en faire, est-ce qu'on pourrait se voir ? Et donc c'est lui le papa, le vrai papa.
Sans blaguer.
Oui, c'est lui, c'est Philippe Michelin.
Et quand on dit j'ai un scénar dans le tiroir, ça veut dire qu'il avait du mal à convaincre on va dire quoi, de l'opportunité de tourner ce film. Il avait proposé à d'autres producteurs qui ont décliné.
Il a été proposé à des producteurs, il a été proposé même à Chantal Lobby. Je l'ai revu Chantal après, et le projet n'a pas avancé, n'a pas abouti. Il est resté, je crois, un an et demi dans les tiroirs.
C'est
et
fou.
On l'a repris avec Philippe, on l'a retravaillé, et puis Richard Grandfrère,
le producteur.
On l'a pimpé. Et Richard et Pathé ont cru à ce projet, et puis voilà, il s'est retrouvé sur les écrans.
Bienvenue Michel Blanc, on est ravis de vous accueillir tous les deux pour parler de ces Tuches, où vous avez le rôle du salaud de l'histoire quand même. Il y a un plaisir à jouer un
c'est
salaud.
C'est pas un salaud, c'est un incompris.
Oh non, si, c'est un salaud.
C'est un salaud.
C'est un incompris.
C'est un incompris.
On voit bien l'autre salaud qui juge le salaud.
Je suis d'accord.
C'est pas par esprit de synthèse obligatoire, mais c'est un incompris qui devient un salaud parce qu'il est incompris. Si j'ose dire.
Ah, moi j'aurais dit que c'est un salaud incompris.
Mais tu traites tout le monde de salaud, toi.
Non, il se comporte comme un salaud.
C'est ça.
Bien dire ce qu'il est.
Ça cache une fêlure.
Le point de départ étant d'abord la démission du président de la République. Avec un départ encore plus fort que celui de Giscard.
Ouais.
Évidemment, le clin d'œil est évident. Ce au revoir.
Bah oui. Au revoir.
Et le mec, il n'arrive pas à disparaître du bureau.
C'est ça.
C'est tellement bête et tellement
trop
drôle.
De cheveux.
C'est la vanne de l'ascenseur qui ne marche pas.
Exactement. Exactement. Avec ce tournage qui a eu lieu, donc on le disait, hein, à l'époque du muet, hein, puisque ça fait un certain temps que ce film attend d'être.
Oui, c'est ça. En 1952, on a commencé.
C'est ça. Autour de Michel Blanc, évidemment Isabelle Nanty, évidemment Jean-Paul Rouve, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin, Théo Fernandez, là c'est on est dans le cœur des Tuches. François Berléand qui a enfin trouvé un rôle, ça nous fait plaisir parce qu'on était inquiets pour lui. Donc joue dans ce film Jérémy Lopez de la Comédie Française, trop chicos. Léni Joubu et Lila Poulet-Berenfeld jouent également entre autres dans ce casting. Et vous aussi, vous jouez Olivier, le plaisir d'être devant et derrière la caméra.
Alors je vais vous dire la vérité, c'est aucun plaisir en fait, puisque c'est les scénaristes. Non, je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire que les scénaristes, à chaque fois, me font, mais là, on a besoin de Monnier. Parce que dans cette scène, il faut que Monnier soit l'extra. Et je leur dis non. Ils le font et je suis bien obligé d'accepter parce qu'autrement, le film, on a besoin de Monnier. Mais moi, c'est une angoisse pour moi. Parce que.
Sincèrement?
Ah ouais, c'est pas une angoisse de jouer, une angoisse parce que je dois réaliser le film et qu'il y a énormément de comédiens.
Oui, mais être devant la caméra à l'époque de KDO.
Ah oui, je vais le refaire. Non, mais je réaliser et jouer, un enfer. Voilà, jouer, aucun problème. J'adore ça. Mais réaliser et jouer. Et en plus, les Tuches, non.
Quoi, il faut courir derrière le combo, rembobiner, revoir la scène.
S'auto-diriger, en même temps diriger 7 ou 8 ou plein de comédiens en même temps. Quand c'est un film plus intimiste, comme on a pu le faire avec Cad, quand on a fait Pamela Rose 2, c'est plus simple. Là, c'est un enfer.
Ça se confirme, parce que moi, ça m'est arrivé. En plus, j'ai fait fort parce que la deuxième fois, j'ai joué deux rôles et je me suis dit plus jamais. Mais en fait, la raison, c'est que je n'arrive pas à être autre chose que metteur en scène quand je suis censé être les deux. Donc, je joue moins bien ou mal. Appelons ça comme ça.
Vous avez fait toute votre carrière là-dessus, Michel.
Sur le mauvais, oui. et on arrête. C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser aller, de jouer comme il me dirige, eh bien, je joue et je regarde si le mouvement de caméra, le travelling arrive bien au bon moment, si l'autre acteur. Et je privilégie, parce que je me dis, t'as pas le droit de leur faire ça, les autres acteurs. Donc, je suis plus préoccupé par les autres acteurs.
Concentré par quoi d'ailleurs? Par la technique? Parce que là, tous les deux, vous parlez justement d'abord de la technique, c'est-à-dire du cadre, de la lumière, avant même le jeu et la direction d'acteur. Quand vous dirigez.
Quand je dirige.
C'est la technique qui vous inquiète.
La technique, c'est réglé avant, c'est fait avant. Enfin, je sais pas comment on en parle.
Donc c'est la direction d'acteur après.
Mais après, une fois qu'on est prêt à tourner, après, je ne m'intéresse plus qu'au jeu des acteurs. Voilà, c'est ça, heureusement.
Alors, je peux pas m'intéresser au mien. Voilà. Dans cette Tuche 4, on est avec une démission du président de la République qui décide de relancer une, pour essayer de la faire courte, une usine de fabrication de jouets pour les enfants.
L'usine de jouets qu'il allait voir quand il était petit, ou enfin, quand il était plus jeune, il emmenait voir ses enfants cette usine de jouets.
La
magie de Noël, Limarolles, où il y avait les enfants pouvaient passer à la tête à travers la fenêtre et voir les ouvriers habillés en Père Noël fabriquer les jouets. Voilà, c'était un peu sa nostalgie à lui. Et cette usine est fermée puisqu'elle a été rachetée pour faire un parking. Elle a été rachetée par une société, une grande plateforme de distribution qui s'appelle Magazone.
Magazone, qui fait penser évidemment à aucune autre plateforme de distribution mondiale.
Non.
Et donc il y a
Michel Blanc, vous faites partie
c'est moi
de
le
cette.
Patron.
C'est ça.
Pas le grand patron.
Non, c'est une femme.
Non, le patron de régional,
local,
qui espère,
grandir.
Éventuellement aller à Puteaux.
Monter à Puteaux.
Et comme je suis né à Puteaux, je ne peux pas cracher dans la soupe.
Et puis il y a donc toujours dans la volonté de dans les Tuches une double lecture entre guillemets peut-être même un peu politique ou sociétale.
Oui, sociétal.
En plus des vannes, parce qu'on rit, énormément. On va commencer par l'essentiel.
Oui.
C'est un film extrêmement drôle où même Morgane et Leïla se regardent l'une l'autre en pensant à une vanne. On sait toujours pas laquelle, mais en riant.
À une ou deux vannes.
Ouais. Non, mais il y en a tellement. Il y en a tellement des vannes.
Il y a beaucoup de jeux de mots.
Et puis il y a comme ça en filigrame toujours quelque chose qui se veut utile.
Oui, c'est un flash à ce moment-là sur la société et c'est vrai que voilà, on parle beaucoup de la problématique des plateformes de distribution et des petits commerces qui sont impactés par ça.
C'est même visionnaire, si je peux me permettre, Olivier, parce que ce film, vous l'avez tourné avant la Covid-19 et l'explosion de la distribution entre autres, Amazon qui est visée par la vanne. Donc, vous aviez déjà vu
On entendait parler, c'était récurrent comme sujet.
Hein, mais ça sortait
déjà un peu. Et c'est vraiment le travail de Philippe Méchelin et de Julien Hervé, qui sont des ex-auteurs des Guignols de l'info, et c'est eux qui apportent aussi cette dose de société et d'actualité dans les Tuches.
Les Tuches, extrêmement drôles. Faut assumer. Non, faut assumer.
On a plaisir à retrouver cette famille. On a plaisir à retrouver cette famille.
Oui, c'est ça, c'est un rendez-vous récurrent. Voilà. On est chaque fois content de trouver tous les protagonistes qui nous font rire pour des raisons bizarres.
On est attachés. Et puis même les deux fils entre le coin-coin et Canard, il y a ce côté, il y a cet équilibre. Là, sans être dans le jugement, qui balance des vannes, on se dit, ok, d'accord, lui, c'est le neuneu de service.
Wilfried est un héros.
Et peut-être pas tant que ça.
Non. Sur Pierre Lottin, oui, il s'avère que là, il a une idée de génie dans le film qui va cartonner, quoi. Mais après, on en apprend un peu plus sur son passé.
C'est ça.
On apprend qu'il a été soigné pendant 8 ans par un vétérinaire, voilà. Donc, tout ça fait que.
Ça vous fait un homme, quoi.
Mais ça, c'est des vannes à la Tuche. Hein, c'est ce qui nous fait. Ça nous fait rire, nous.
Vous savez que c'est mon rêve.
Et puis la force
d'être soigné par un vétérinaire, c'est mon rêve. En tant qu'hypochondriaque, c'est mon rêve. Parce que à chaque fois, je me trouve un truc nouveau. Il faut que j'aille voir le médecin, il faut que je lui explique. Mais alors, je lui explique avec beaucoup de trucs. Parce que les hypochondriaques, ils ont toujours des. Vous voyez, c'est peut-être ça.
Expliquez-moi, Michel. Rêve... L'hypochondrie, c'est on vous parle de n'importe quel symptôme, de n'importe quelle maladie, vous vous dites, je l'ai.
Non, c'est pas.
Ah, c'est pas ça. C'est quoi alors?
On n'a pas besoin de m'en parler.
Ça n'existe pas, vous l'avez.
Je l'ai en tête. Ouais, j'ai vu ça dans un feuille. La dernière fois, je lui ai dit, j'ai vu dans un film que tel truc pouvait être le symptôme de ça. Il m'a dit, arrêtez d'inventer la médecine. Donc, voilà. Mais mon rêve.
Et en quoi changerait un vétérinaire alors pour vous?
Je vais vous dire. J'aurais pas à raconter tout ça. Ça, je mets 20 minutes à lui raconter mes symptômes. Là, je rentrerai, je me coucherai sur la table. et à la fin, s'il me pique, tant pis, c'est fini, on est tranquille. Voilà.
Vous savez qu'il y a des spas pour faire des trucs comme ça. Si vous voulez vous arranger sur
les tables. Dans les spas. Ah, ouais.
C'est un vétérinaire
qui risque de vous piquer à la fin.
C'est dommage.
Ça occupe, hein.
supplément. Si on nous entend, ça manque. Voilà. C'est vrai que ça manque.
Ça manque une figure. Et puis double emploi pour Isabelle Nanty aussi.
Ah oui, deux rôles formidables, totalement à l'opposé de l'un de l'autre. Un exercice d'abord technique et réussi en termes de réalisation parce que le. Le résultat.
Ah, c'est la même actrice.
Le résultat est
c'était,
fort.
C'était le résultat cherché.
Ouais. Il fait bien fait. Ah ouais, mais j'ai pas.
Le résultat est là avec des scènes de câlins, des scènes de. Vraiment, c'est pas juste. Il y en a une qui est à gauche de l'image et l'autre à droite de l'image et on a bien coupé au milieu comme ça, on n'est pas embêté. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est super bien réalisé, truqué techniquement, mais surtout. Le jeu, alors on sait qu'elle est prof déjà, Isabelle Nanty, notamment de Jean-Paul Rouve, elle le fut, et quand on dit fut, on pense évidemment à François Berléand et tout ce qu'on prend, mais le jeu,
la gratuité.
Le jeu, il mérite franchement.
Non, c'est la Saint-Berléand aujourd'hui, je sais pas pourquoi.
C'est tous les jours la Saint-Berléand, il mérite.
Et puis la découverte.
Mais le jeu d'Isabelle Nanty est absolument formidable.
Et puis Jérémy Lopez, qu'on a vu dans Si on chantait, qui est exceptionnel dans ces scènes de comédie, qui est incroyable.
Et
d'imitation. Comment vous l'avez fait venir dans la bande?
Je connaissais Jérémy.
Sa mère.
Non, je connaissais. Je suis son frère. Non, je l'ai découvert principalement déjà à la télévision, et après je suis allé le voir au théâtre. Je suis allé voir La Puce à l'oreille. Là, et là, je suis tombé de ma chaise et je l'ai trouvé tellement dingue. Et donc je l'ai invité dans les tuches. Il a dit oui tout de suite. Je trouve ça super. Et j'ai même tourné le prochain film qui sortira plus tard là cet été. Il est aussi dedans. Parce que...
Il joue un jeune diplômé d'HEC qui parle par code. Finalement, comprend pas du tout ce qu'il dit.
Thibaut.
Et il est sous votre responsabilité, Michel Blanc.
Mais pas responsabilité, il est broyé par moi.
il est sous influence.
Sous influence.
Tuches 4 sortent aujourd'hui en salle et c'est déjà un bonheur de l'annoncer. Ça a été reporté maintes et maintes fois à cause de la pandémie et on est ravis d'avoir eu la chance de pouvoir le voir avant qu'il ne sorte aujourd'hui et de vous dire surtout et de vous encourager à le voir. Nous sommes ravis de vous accueillir, Michel Blanc.
Ça.
Et Olivier Barou, nous sommes ravis, ce n'est pas le cas de Morgane Cadignan, que voici La Peste. Morgane ne vous aime pas.
Michel Blanc, Olivier Barou, je vous aime pas. Mais je suis ravie de vous voir parce que les Tuches 4, on les a beaucoup attendus déjà. Je crois qu'après les Balkany, c'est quand même la famille préférée des Français. Et moi, je trouve ça tellement, mais tellement chouette, un film de Noël made in France. Franchement, c'est trop rare. Au moins, c'est plus proche de notre réalité. On est moins déçus quand le réveillon arrive. C'est vrai, il y a plus de Tuches en France qui fêtent Noël à la Tuche que de Tucson qui vont chanter Jingle Bells autour du piano avec un verre de lait de poule. Et oh, c'est un miracle, il neige en Californie pour la première fois depuis 9 siècles. C'est si dommage que Hillary habitant loin, soit coincé à l'aéroport de Chicago à cause de la tempête. Heureusement que son voisin de siège dans l'avion, un riche héritier qui voyage en classe éco, évidemment. Oui. Ah non, c'est parce qu'il a laissé sa place en business à une vieille dame jouée par Jane Fonda qui Cashton deviendra l'homme de sa vie. Moi, j'ai été trop élevée au téléfilm de Noël américain. Du coup, je me suis mise en tête que j'adorais Noël. Les décorations à te faire claquer un épileptique, ce mois de l'année où dans ma vie, ça sent le sapin, enfin pour une bonne raison. Même les boutiques avec la même playlist en boucle, j'aime ça. Quand j'entends Let It Snow reprise par l'intégralité des gagnants de The Voice américains qui vendent pas d'albums en temps normal, et ça me redonne foi en l'humanité. Je vous jure, l'odeur de la cannelle partout où tu vas, les panettones aux fruits confits de la taille d'une Twingo, moi l'espace de quelques minutes, ça me fait oublier la misère du monde. Bouffer une gaufre en plastoc sur un marché de Noël lui-même en plastoc, et ça me fait oublier les camps Ouïghours l'espace d'un instant. Pas que moi d'ailleurs, vu le nombre de produits Apple qui vont encore être offerts cette année, on pourra regarder le monde cramer sur notre Apple Watch pendant la pub de Love Actually, ça va être super. Mais forcément, quand tu fantasmes un peu tout ça et que le vrai réveillon n'est pas comme dans les films. Celui de la vie termine souvent à jouer à la crapette avec tonton pendant que les filles font la vaisselle. Oui, les filles font la vaisselle et les garçons ouvrent les huîtres. Mona Chollet n'a pas encore été livrée au pied de tous les sapins. Elle a le droit de fêter Noël, elle aussi. Alors, je profite de la venue d'Olivier et Michel et de parler un peu de Noël pour vous présenter très sérieusement mon petit guide pour survivre en cas d'attaque sexiste pendant les fêtes de Noël en famille non déconstruite.
Okay.
Moi, je n'ai qu'un seul conseil, les amis, blague à part. Un seul conseil, protégez-vous. Ne montez pas au front, ne vous battez pas, s'il vous plaît. N'allez pas vous abîmer dans des conversations qui ne feront avancer personne. Vous bossez si dur depuis septembre. Vous méritez tellement pas de passer vos vacances à expliquer 150 ans de féminisme à votre tante. Allez donc faire une sieste au lieu d'expliquer à votre cousin pourquoi c'est raciste de dire à ce point qu'il n'est pas raciste. Faites semblant d'être bourré. Et si vraiment on vous saoule pour débarrasser, cassez une saucière en cristal du service de mariage. Je vous jure, on vous demandera plus rien. Buvez du champagne avec ceux avec qui c'est doux. Et si c'est pas doux, ne luttez pas. Roulez-vous en boule dans une couverture de survie. Avec un peu de chance, on vous prendra pour des Ferrero Rocher et les gens vous suceauteront la cacahuète. Franchement, c'est Noël. Vous n'êtes pas là pour faire la guerre, vraiment. Dès que quelqu'un dit une énormité, mangez du chocolat. franchement, faut mieux prendre du cul que de se prendre la tête. Et si vous voulez vraiment,
c'est sage.
Si vraiment vous voulez vous battre, si vraiment vous voulez vous battre, vous dégoupillez un podcast des couilles sur la table et balancez-le au milieu du salon en vous barrant. Et si vraiment, vraiment quelqu'un vous dit un truc qui vous agace, les pneus neige, ça se crève comme des pneus classiques. Joyeux Noël.
Merci Morgane Cadignan.
Plaisir.
Oh, spectacle.
Bien sûr, au Métropole Théâtre à 20h et ce sont les dernières.
C'est du jeudi au samedi.
C'est tellement bien. Oh.
Non, mais tu reviens après.
En septembre. Ah bah, on va aller voir un peu la France.
Mais d'ici là, il y a la tournée dans toute
la France. On va aller voir un peu les gens ailleurs. Il y a pas
elle tourne.
Il n'y a pas que Paris.
Mi-janvier
à Pointe-à-Pitre.
Il n'y a pas que Paris, il y a Bouzol. Notamment avec aussi, on ne l'a pas dit, dans ce conte de Noël, des vieilles rancunes de 10 ans. L'idée aussi est de rabobicher une partie de la famille qui s'est fâchée. Vous êtes le beau-frère de Michel Blanc, de Jean-Paul Rouve dans le film.
Et Jean-Yves Marteau.
Voilà, le bien nommé. Qui est un requin dans le monde des affaires, voilà, et c'est ça.
Voilà. C'est un requin marteau, des répliques de Jean-Paul.
C'est ça. Et qui, je ne sais pas si vous voulez, ou on peut ou pas dévoiler, mais enfin, qui est venu, on va dire, sur le gong, rafler une vente aux enchères, d'une manière totalement inélégante, en brisant justement un rêve de gosse. Et la fâcherie vient d'un rêve de gosse, et toute l'intrigue se fait aussi autour de renouer avec les rêves d'enfants.
Oui, il y a effectivement, mais il a de bonnes raisons, de bonnes raisons. On est deux personnages qui vivons de manière extrêmement antagoniste. Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut travailler, et lui, il pense qu'il faut rien foutre.
Même à la pêche.
Et toucher toutes les allocations possibles. Et il me raconte tout ça. Alors que moi, je me crève au boulot il me raconte tout ça pendant la vente, et il dit qu'il a mis toutes ses indemnités chômage dedans, et là, je peux pas m'empêcher de rajouter un euro pour le faire chier et gagner la voiture. Et là, après 10 ans de haine.
De fâcherie. Et les deux sœurs, donc, toutes
pour
les deux.
Pour une voiture, pas n'importe quelle voiture.
La R21 manager.
Et on a adoré, j'adore le clip.
La pub
pour présenter la bagnole.
Ça m'a rappelé qu'il y a des Olivier à fond.
Mais moi aussi, le clip, c'est génial.
Et puis, il y a donc ces deux sœurs, jouées toutes les deux par Isabelle Nanty, l'une étant mariée à Jean-Paul Rouve, l'autre étant mariée à Michel Blanc.
Double peine.
Et donc cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzol va devenir une affaire pratiquement, je dis pas mondiale, mais pas loin.
Nationale,
c'est extrêmement drôle, avec toujours Claire Nadeau, qui est la seule, finalement, à ne pas avoir de texte à apprendre.
Merci. Elle a pas de texte sur celui-ci. Elle avait du texte sur le 2 parce qu'elle devait parler Comanche, et on avait vraiment écrit des textes en Comanche.
Mais rien que ça.
Et là, Claire m'a fait quoi?
C'était juste pour la faire chier ou quoi? C'est vraiment du Comanche, t'es obligé de respecter le texte.
Allez, on voulait faire quand même un peu de Comanche et un peu de Haïchaï Noha, oui, oh, oh. Et on lui a écrit, donc là, elle a angoissé parce qu'elle devait apprendre. Mais elle l'a très bien fait d'ailleurs. Mais donc là, effectivement, elle a pas de texte à apprendre, mais elle doit quand même apprendre ce qui est écrit sur le scénario en français pour l'interpréter. On va chier, ce qui est quand même pas une mince affaire.
C'est ça. Et quelques personnes comprennent Claire Nadeau, dont Pierre Noël, prénom composé pour François Berléand, qui lui capte
la langue.
Capte tout.
Il y a même une histoire d'amour naissante.
Oui, il y a une histoire d'amour naissante. Il y a un crush.
Ah, tu en vois, toi.
C'est le début du film. Surtout, c'est que Mamissus cherche l'âme sœur, et donc elle s'est inscrite sur un site qui est adoptavio.com. Où les vieux sont vraiment vieux. Et donc là, elle va.
Non, mais quand elle est sweep et qu'elle est like, c'est monstrueux.
Ils jettent ceux qui trichent, qui sont plus jeunes.
C'est ça. Pourquoi François Berléand? Pourquoi vous êtes
parce qu'il est vraiment pas cher en ce moment. Honnêtement, c'est la raison unique qui nous a poussé à prendre François. Et François, moi je le connais depuis longtemps, j'ai déjà tourné avec lui. C'est un amour, et je le voyais aussi dans le rôle, quoi, tout simplement. Voilà, je considérais que c'était vraiment lui le rôle.
Rumeur dit que c'est vous, Michel Blanc, qui avez demandé à jouer dans Les Tuches.
J'ai pas demandé, je me serais pas permis. C'était mon rêve.
Vraiment?
Oui, je suis très ami avec Jean-Paul. On a fait 5 films ensemble, en tant que metteur en scène, lui metteur en scène, moi acteur, partenaire de jeu, encore là, et je rêvais de jouer dans les Tuches, mais jamais je n'ai osé lui glisser le moindre mot là-dessus, parce que je trouvais que c'était pas bien, et que
c'est gênant de dire j'aimerais jouer dans les Tuches.
C'est Jean-Paul qui m'a dit, tu sais que Michel est très fan des Tuches, etc.
Oui, je lui ai dit que j'adorais ça, voilà, je lui ai pas dit par contre que je... Et puis voilà, puis... Un soir, mon agent m'a appelé en me disant « Est-ce que tu ferais les Tuches 4 ?» J'ai dit « Attends, mais tu te fous de ma gueule ou... ?»« Non, c'est vrai, on te le propose. » J'ai dit « Mais oui, bien sûr, oui. »
Ouais, ça a été cool. Dès la première lecture, on s'est dit que c'était bon, quoi.
Puis ça colle bien. Et puis surtout, Michel Blanc avec une moustache. C'est-à-dire que...
Moustache, ça nous rappelle un peu. Ouais.
Et ça, vous avez hésité ou pas ?
Non. Non. Bah non, pour les Tuches, j'aurais fait n'importe quoi.
Non, parce que, encore une fois, là, on a...
J'ai même des cheveux, c'est vous dire.
On a l'impression que vous aviez enlevé la moustache comme pour faire oublier Jean-Claude Duss.
Alors, je veux pas prendre 15 plombes, mais l'histoire de la moustache est simple. Après Jean-Claude Duss, je l'ai... Après,
j'aime bien le ton sur lequel parle Michel Blanc, ça veut dire... Je te préviens, je vais donner une réponse, et puis
long.
Derrière...
Non, je l'ai rasé après... Jean-Claude Duss. Je l'avais dans Jean-Claude Duss par hasard. Parce qu'un soir, en rentrant de vacances, je me suis rasé parce que je ne m'étais pas rasé du tout. J'ai gardé la moustache en me disant « Ah, c'est bien, j'ai une tête de con comme ça. » Je suis arrivé, j'ai joué, mes potes m'ont dit « T'es plutôt mieux. » Donc je l'ai gardé pendant tout le personnage.
Ça s'appelle des vrais potes.
Oui, c'est des vrais potes. Ensuite de quoi, je l'ai rasé et à chaque fois que j'ai refait un film, on m'a demandé de la laisser repousser. Je ne l'ai pas dans Monsieur Hir, par exemple.
C'est vrai.
Mais Blier m'a demandé, dans les deux films que j'ai fait avec lui, de la laisser repousser. Enfin, voilà. Donc, mais là, j'avais réussi enfin
dans
à m'en séparer.
C'est Olivier Barou qui vous a demandé de la laisser pousser ou c'est vous qui l'avez proposé ?
Non, moi j'ai fait ce qu'on me dit.
J'ai du moustache et cheveux, voilà. Mais j'avais
ce
pas forcément en tête.
Ce qui va bien avec l'univers des Tuches aussi, quoi. Aux années, entre guillemets, voilà, qui le représentent, parce qu'on a l'impression qu'ils sont, qu'ils vivent au 21e siècle, mais qu'ils sont plutôt des années 70.
Oui, complètement. Quand on voit le papier peint, c'est sûr que...
C'est ça.
Mais mais en ce qui concerne Michel, il n'y avait pas forcément une demande par rapport à Jean-Claude Duss. On ne s'est pas dit ça.
Non, jamais.
On ne s'est pas dit, on va essayer de se rapprocher du personnage.
Non,
on voulait les cheveux, la moustache comme ça. Voilà.
Et comment ne jamais franchir la frontière de se moquer des Tuches, de les rendre touchants, humains et proches, et de leur faire faire d'avoir des réactions, des situations où on se dit, non, mais il faut vraiment être bête pour faire ça, quoi.
Mais je crois que, vu que c'est nous qui écrivons les dialogues...
vous êtes bête.
Si les gens doivent nous juger comme étant des beaufs ou des bêtes ou des idiots, tant pis, ça sera...
Non, mais vous comprenez, Olivier, ce que je veux dire. La frontière est délicate, comme d'ailleurs dans n'importe quel... On parlait tout à l'heure, Morgane faisait une allusion sur des vannes racistes. C'est toujours délicat de dire on peut se permettre ou pas se permettre, c'est drôle ou c'est méchant, c'est moqueur ou c'est agressif.
On tente des choses, comme dans les Tuches 2, quand Jeff Tuche apprend que son fils veut se marier avec un homme à Las Vegas et qu'il est tout de suite dans une sorte de révolte en disant « c'est pas possible, pas de ça chez nous, ils sont où, tic et tac ?» Voilà, il est complètement en colère contre ça. Et puis après, il réfléchit, il se dit, mais qu'est-ce qui compte le plus ? C'est que mon fils soit heureux, c'est qu'il rencontre Charlie Ingalls, qui lui dit,
c'est ça.
Ce qui compte, c'est que tes enfants soient heureux, et là, il comprend, et il accepte tout ça. Donc voilà, on est toujours... mais il peut avoir des réactions, un peu fortes du Tuche, ou même d'autres de la famille.
Et c'est vrai, je le redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des messages, des valeurs, en tout cas, qui sont véhiculées par ces films, qui progressent, et c'est ça qui est formidable aussi, de numéro en numéro. On en a déjà parlé chaque fois qu'il y a eu un numéro de Tuche qui est sorti. Vous avez toujours été les bienvenus, peut-être pas toujours les mêmes, ça a changé chaque fois, mais toujours chez vous.
Toujours
ici,
été bien reçu ici.
Clairement, et ce qui peut être inquiétant d'ailleurs d'être bien reçu à France Inter pour le succès d'un film.
C'est ce qu'a dit Jean-Paul ce matin dans la matinale.
C'est vrai.
Il a dit, soit tu fais France Inter, soit tu fais des entrées.
Voilà.
Mais je ne veux pas faire les deux.
Je ne savais pas. Mais donc, au moins, on est d'accord.
Il a dit ça ce matin.
Mais il sait vendre.
Blague à part,
le constat est que à chaque volume comme pour un disque, mais à chaque numéro de la saga, en tout cas, il y a eu de plus en plus d'entrées, y compris d'ailleurs en diffusion télé, encore pratiquement 5 millions dimanche soir quand c'est passé à la télé, et la sortie du film aujourd'hui. Et je vous sens extrêmement détendu d'ailleurs sur...
Détendu parce qu'on sait que le film... on aime le film, moi j'aime le film, et je sais que les gens qui l'ont vu l'ont aimé. Donc voilà,
Vous êtes détendu
là-dessus. Après les entrées, après, on sait que la situation est particulière.
Ah ben, faut le dire. Il y a carrément, on en parlera tout à l'heure. Il y a carrément moins de monde au cinéma.
Moins 30, moins 40%. Donc voilà, nous, on n'a pas comme objectif de dire on va absolument faire plus que le 3, etc. Il fera ce qu'il fera, le film. Le but, c'est que les gens ressortent en disant bah, c'était chouette, quoi, sans être déçus.
Ça marche. Voilà. Ça marche. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les Tuches 4 pour fêter Noël en se marrant, avec aussi quand même une magie de Noël. Il y a quand même aussi tout le côté vraiment. J'allais presque dire cliché.
Mais c'est le bon côté cliché.
Ouais, c'est ouais, ça, c'est ouais, ça. Ouais,
c'est la famille, c'est les fâcheries, l'envie de réconciliation.
Ouais. Non, les jouets,
avec de la malice.
Le rêve autour de la magie de Noël, mm-hmm. elle est bien présente dans ce film Les Tuches 4 qui sort aujourd'hui. Et voici Fanny Ruet qui sort maintenant.
Oh là là. Coucou les zouzous. Bon, hier soir avec ma copine, on avait un peu fumé et on s'est embrouillé parce qu'elle a dit qu'elle ne considérait pas mon chat comme son meilleur ami.
Oh mon dieu.
Oh là là, l'erreur.
Et pourquoi déjà là, je me dis, les gens défoncés sont fantastiques. Et puis surtout, elle est tellement pure qu'une heure plus tard, elle est revenue vers moi pour me dire, écoute, je suis désolée si ça t'a blessé, mais c'est juste que je le connais pas encore assez. C'est la bonne. Je suis désolée, que voulez-vous que je vous dise.
Ça ressemble à la femme
la
de ta vie, ouais, c'est
mais
sûr.
Oui, cette fille, je pourrais la suivre même dans une flash mob. D'où d'ailleurs mon observation du jour. C'est fou, hein, l'amour. Oh là là. Quelle affaire. Genre, t'es là, tu fais ta vie et tout, puis il y a quelqu'un qui vient tout bousiller, mais en bien. Quid ? Parce que genre t'as envie qu'elle soit là tout le temps et tout et genre tu. Moi je voulais regarder la nouvelle saison de Dexter, mais je vois plus l'intérêt de le faire si on le fait pas ensemble. Et c'est ouf parce que genre faire des trucs que t'aimes seul, ça devient moins bien que de rien faire à deux. Wow. Genre c'est zinzin. Tu trouves mignon même des trucs hyper chelous. Genre une fois elle m'a raconté que quand elle était petite, elle arrachait les pattes des araignées comme des pétales en faisant je t'aime un peu, beaucoup. Et c'est une putain de psychopathe en fait. Et donc c'est hors de question que je la laisse regarder Dexter, elle va penser que c'est un tuto. Mais d'un autre côté, je me dis, mais une araignée, ça a toujours 8 pattes, donc ça tombe toujours sur passionnément. Donc c'est juste qu'elle voulait de l'amour, donc c'est trop mignon. C'est trop mignon, j'irai la voir en prison. Et c'est fou, parce que même les trucs que t'aimais pas à la base et tout, tu t'y habitues, et puis tu les aimes bien, et puis quand ils sont plus là, ben ça te manque. Genre c'est comme quand t'as un chat pour la première fois, et au début tu trouves ça super bizarre quand il te suit aux toilettes et qu'il te regarde faire pipi et tout, et puis au final, ben, au bout d'un moment, quand il vient plus, t'es déçu. Ouais. Et donc tu te demandes s'il s'est lassé, ou si t'as changé dans ta façon de faire pipi. Et donc t'essayes de relancer la passion et tout, tu mets des bougies. T'essayes de faire une sérénade avec ton jet et tout.
Oh. Salut.
Ah non mais c'est mignon.
Mais j'adore la musique. Et c'est dingue l'amour, sérieux, t'essayes d'impressionner une personne alors que tu sais déjà que vous allez vous pécho. Et genre, vous faites des blagues, vous vous draguez de manière lourde et tout pour rigoler. Genre, l'autre jour, elle m'a demandé c'est quoi tes plans pour ce soir? Et j'ai dit mon plan, c'est toi. Et c'est pour rire. Et puis je me suis dit, mais je le pense, en fait. Et c'est ça, je pense. C'est fou, ça rend débile, ça rend tout mielleux. Tu parles avec des voix connes juste pour faire marrer l'autre. Individuellement, on a 28 ans chacune. Ensemble, on en a 4. Ça rend con, sérieux, ça montre la personne qu'on est sans nos filtres sociaux. Je pense que être amoureux, c'est comme être sous, sauf que c'est les autres qui ont envie de vomir. Mais c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Je conseille 5 sur 5, même les trucs moins bien, eh ben t'acceptes. Mon chat, c'est pas encore son meilleur ami, c'est pas grave, parce que de toute façon, s'il l'était, j'aurais trop peur qu'ils bouffent des araignées ensemble et qu'ils viennent à deux me regarder faire pipi. Et franchement, l'amour, ça rend plein de choses mignonnes, mais là, ça va un peu loin pour moi.
Ça me rassure. Merci, Fanny Ruet.
Et Fanny avec amour les mardis, mercredis à Paris, à la Scala jusqu'à la fin du mois de décembre et en tournée partout en France dès janvier
pour la sérénade.
On dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Moi, j'étais bouleversé par cette scène référence à N'oubliez pas les paroles dans le film Le Karaoké du Loir-et-Cher. La musique est très présente. L'émotion aussi.
Ah, j'adore.
J'ai adoré ce passage. Ouais. Franchement, ouais. Ça le fait. Il faut la trouver cette chanson.
Ouais.
Comment se fait une bande originale? Alors c'est aux deux réalisateurs que je pose la question, mais la BO d'un film, parce que la musique dans un film, c'est, je le dis souvent, un acteur et un rôle. En plus, il y a certains films et certains réalisateurs qui s'interdisent de mettre la moindre musique en disant ouais. « Ça va, on a compris que là, il fallait pleurer, je vais pas rajouter des violons pour dire « Go, c'est le signal ouais,
c'est
pour pleurer. »
C'est un parti pré-artistique. Voilà.
Mais là, c'est vraiment un acteur en plus. Vous, c'est dans l'écriture, la musique, déjà, Olivier Barou?
Oui, on sait qu'il va y avoir quelques parties musicales, mais après, c'est un travail qui se fait pendant le montage, en fait.
Parce qu'il y a un problème de droit aussi, il faut le dire. C'est un peu triste à raconter, mais bon, il faut négocier, on n'est pas sûr, dès le début, que voilà, les ayants droit vont accepter que telle musique soit dans tel film.
C'est un budget,
c'est un gros budget.
C'est un gros budget, oui. Ça peut être très gros, comme ça peut être pas cher, ça dépend de donc il y a des gens qui s'occupent de ça, de négocier les droits. Mais c'est pendant le montage, voilà, on découvre les scènes qui sont montées, on se dit, tiens, là, ça serait pas mal de mettre ce titre-là.
Pas pour le Loir-et-Cher, parce que là, vous jouez le karaoké, donc oui, il faut le savoir dès le début.
Oui, et puis avoir l'autorisation, parce qu'on a changé, elle change les paroles. Cathy, en chantant, elle remplace Loir-et-Cher par Bouzol, et donc il a fallu avoir l'autorisation des ayants droit pour changer les paroles de la chanson. Ils ont accepté gentiment, et je les remercie d'ailleurs. Donc voilà, il y a plein de choses à négocier comme ça. Puis après, il y a ce qu'on appelle le score, la bande originale du film, qui est très très importante, surtout dans une comédie. Et là, pour le coup, c'est. Je travaille avec lui depuis de nombreuses années, et c'est Martin Rapneau qui fait tous mes films. Et moi, j'adore Martin.
Et c'est lui qui a composé la chanson interprétée par Hugh Coldman.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, mais il est très fort. Il est très fort.
Mais là, on est vraiment dans les codes de films de Noël. Ouais. Ça, c'est sûr. Michel, vous travaillez aussi de la même manière la musique sur vos films.
Alors, c'est mon premier film. Il y avait énormément de musique.
On sent le mec fatigué. Et il y en avait trop.
Non, c'est pas ça. C'est que ça s'y prêtait.
D'accord.
Parce que ça, on voyait Gérard Lanvin dans un squat retrouver un groupe sénégalais qui s'appelle Khalam et jouer avec eux, jouer du sax. Enfin, ça se prêtait à beaucoup de musique et j'en ai mis beaucoup et j'ai adoré ça. Et puis après, je me suis rendu compte que petit à petit, dans les films que j'écrivais, la musique était une gêne. Parce que la musique, ça introduit toujours une distance. C'est-à-dire, vous racontez quelque chose, vous ne mettez pas de musique, ça se passe dans l'instant. Vous mettez de la musique, ça s'est passé. Il y a ce côté réflexif.
Ah, ouais, okay, d'accord.
Je me suis fâché avec plusieurs compositeurs à qui j'avais demandé en les prévenant. J'en mettrai pas beaucoup, hein, c'est juste des petits moments, pas de problème. Ils sont arrivés avec 1h30 de musique. Donc je les ai pas mis, donc ils m'ont dit t'es un con et ils sont fâchés. Voilà. Donc c'est compliqué, mes rapports avec les musiciens.
Je vois, voilà. Très bien. La musique dans vos vies cette fois-ci, Olivier Barou, vous écoutiez en 1982-84 Bernard Lavilliers.
Ouais, trop fan.
Là, c'est Olivier Barou qui écoutait ça ou c'est l'animateur de radio qui écoutait Lavilliers?
Non, c'est Olivier. Enfin, c'est moi qui écoutais ça à titre personnel. Voilà. Et comme je commençais à faire de la radio à l'époque, voilà, en tout petit animateur de débutant, j'avais eu la chance de le rencontrer pour faire son interview. J'avais 18 ans. Et donc,
fan.
J'étais fan.
Et avant ça, votre mère vous avait inscrit à l'école hôtelière parce que vous aimiez faire des gâteaux.
Voilà. Ma mère ne savait pas quoi faire de moi, en fait.
Logique.
Mais vu que j'étais nul à l'école, un vrai cancre. Et elle me voyait faire des gâteaux et elle disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et donc elle m'a proposé une école hôtelière. J'ai dit « Bah ouais ». J'avais 17 ans. Donc
Ouais, mais on apprend quelle valeur dans une école hôtelière?
Vous êtes resté 2 ans. Hein.
Ouais, 2 ans en école hôtelière.
Est-ce qu'on apprend quoi? La rigueur, le respect?
Ouais, la rigueur, le respect, tout ça. Après, honnêtement, je me suis un peu fait chier.
C'est vrai?
Ouais, honnêtement. Parce que je commençais à faire de la radio en parallèle, en fait. Et moi, ma passion, elle était déjà là, quoi. La radio, l'artistique.
Ouais, mais l'école de la rigueur aussi, du respect,
oui,
la radio.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai. La rigueur, pour le coup, quand vous commencez à faire de la radio, il faut se lever à 5h du matin.
C'est ça. Quand il faut donner les infos à midi, il faut les donner à midi. C'est la rigueur. Les professionnels.
Il y en a qui ont du mal.
C'est ça. Vous avez commencé sur Radio Star dans une cuisine.
Ouais, tout à fait.
Et ensuite sur Radio Adèle.
Radio Star. Association pour le développement de l'expression locale.
C'était à Marseille, Radio Star?
Radio Star, c'était à Caen.
Parce qu'il y en a partout des radios stars, mais il y en a une à Marseille.
Et vous avez tout appris en fait à faire tous les métiers au sein de la radio.
Oui, quand je suis parti après sur une plus grosse radio, je suis devenu un professionnel de la radio avec Eric Auville qui dirigeait RVS. Et c'est là où j'ai vraiment appris mon métier d'animateur de radio. J'ai commencé à écrire des sketchs aussi, je suis resté 5 ans.
Et dans l'émission Self-Service que vous animiez sur Radio Adèle, je crois
sur
que
RVS,
sur RVS. Sur RVS le dimanche matin.
Ouais.
C'était quoi le concept de l'émission?
C'était un concept où on passait des sketchs et on écrivait des sketchs et on essayait de faire rire les gens, donc c'était à base d'humour, tout simplement. Donc voilà, c'était 3 heures le dimanche matin à faire, essayer de faire rire les gens.
Ouais. Et le rêve, c'était quoi? C'était de rentrer à Énergie, à RFM, à Sky, Rock, à Fun. Vous rêviez de quoi?
Non, je rêvais d'écrire et j'ai, pendant un an, j'ai écrit des sketchs pour les nuls en étant rond, ils me connaissaient pas. Hein. J'ai écrit toutes les semaines des sketchs et pas de réponse. Puis un jour, il y a Chantal Lobby qui m'a appelé, j'y croyais pas et qui m'a dit, bon, écoute, tes sketchs, on peut pas le prendre parce que c'est compliqué, il y a des marques dedans, mais en tout cas,
donc, arrête de nous les envoyer.
Non, c'est pas ça. Mais elle m'a dit en gros, mais ce que tu écris est très drôle. Et ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur pour moi et je me suis dit, ok, Chantal Lobby, donc les nuls que je vénérais et que je vénère toujours, me dit c'est drôle, donc peut-être que je peux insister un tout petit peu. Et donc je suis parti à Paris, en fait.
C'est comme un laisser-passer pour y croire, quoi.
Exactement.
Dans ces mêmes années, Michel Blanc, vous écoutiez.
J'adore.
Ça, c'est la BO de Marche à Londres.
C'est votre premier film, Marche à Londres, donc avec beaucoup de musique, si on a compris l'histoire. C'est un gros succès, plus de 6 millions d'entrées.
Ouais.
C'est absolument colossal. Avant de vous lancer dans cette aventure, vous attendiez plutôt qu'on vous écrive un film. La notion de passer à l'écriture, c'était un truc...
Non, je les écrivais, mais je ne les mettais pas en scène.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que... Parce que je pensais que j'étais pas capable, parce que je voyais les metteurs en scène, je me disais c'est un boulot de fou, faut soulever des montagnes, je suis pas sûr de savoir le faire. Donc, au début, j'écrivais avec la trame avec Patrice Lecomte, en l'occurrence, sur Marche à l'ombre, c'était avec Patrick De Wolf, et ensuite je dialoguais tout seul. Et quand j'ai proposé l'idée de Marche à l'ombre à Lecomte, il m'a dit non, mais il faut que tu le réalises, toi. Je lui ai dit, mais t'es cinglé, j'ai jamais fait ça. Tu vas y arriver, tu verras.
Et pourquoi? Ça veut dire quoi, il faut que tu le réalises, toi?
Il voulait que je passe le cap, parce qu'il sentait bien que j'en avais envie, en fait. Et j'osais pas l'autoriser.
Vous l'aviez trop en tête pour que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse.
Il était temps que je le fasse. D'accord. Parce que j'avais l'âge où il fallait prendre une décision, quoi. Donc,
parce qu'il y a un âge pour être réalisateur?
Non, mais je veux dire, faut pas attendre. Si on en a vraiment, en fait, sans se l'avouer, envie au fond de soi,
voilà, c'est ça.
Faut y aller. Puis il savait que on parlait beaucoup de la mise en scène avec Patrice. Donc voilà, j'ai appris sur le tas d'une certaine manière.
Quel est le de l'œuf et de la poule, ou de la poule et de l'œuf, si on écoute cette chanson de Renaud?
Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes.
Ça c'est la poule.
C'est la poule. C'est de la chanson qui a donné le titre du,
ouais,
du
film. J'ai demandé à Renaud, une fois que j'ai eu terminé l'écriture du scénar, je lui ai dit, est-ce que tu accepterais que je prenne le titre de ta chanson et que je la cite, d'ailleurs c'est moi qui la massacre dans le métro, est-ce que tu accepterais? Il m'a dit oui. Et ce qui est drôle, c'est que je sais pas, 2 ans après,
c'est l'inverse.
J'ai fait un film,
ouais, c'est ça,
qui s'appelait Viens chez moi, j'habite chez une copine.
Voilà.
Et il m'a dit, je vais te faire une musique, je vais te faire une chanson là-dessus. Voilà.
Voilà, très bien. Donc c'est vraiment le fait de la poule.
Ça a été
chacun
la
son
poule
tour.
D'abord et ensuite.
En 1999, Olivier Barou, vous écoutiez.
Oh yes.
Enfin.
Ah oui. Tu kiffes ça, Michel, t'adores, toi?
Ouais.
Il adore, ça c'est...
C'est ma cam.
C'est la cam de Michel, ça. À fond chez lui.
Et oui, Olivier, en 99, c'est la grosse émission sur la chaîne Comédie. 2 années, j'ai l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça.
Ouais, ça m'a paru très long, moi aussi.
Non. Vous avez inventé plein d'idées, de concepts. Le Camoulox, ça a commencé là.
Le Camoulox, les Jean-Michel, tout ça.
Manitas, ouais, de l'Habitas.
Ouais, il est né là-bas.
Ouais. Les frères Silver aussi.
Ouais,
tout ça, tous ces personnages ont été concoctés dans la grosse émission qui était un espace de liberté fou, en fait.
C'était tellement bien. C'était tellement bien.
J'ai fait 2 fois la grosse émission.
En invité.
Pas avec nous. Tu l'as pas fait avec nous. Tu as dû la faire avec peut-être Bosso ou De Chavannes.
Ou Jonathan
ou Chavannes.
Non, je te dis une connerie. C'est pas la première fois. Non.
Que tu dis une connerie?
Oui.
Qu'est-ce qui vous rend nostalgique de cette époque-là, Olivier?
Je crois qu'on n'avait pas conscience de ce qu'on faisait. On arrivait le matin à 9h, on écrivait, on répétait à 14h, on tournait à 18h. Et on y allait à fond, et c'était tous les jours. Et c'était génial d'avoir ces cartes blanches. Un grand merci encore une fois à Dominique Farrugia de nous avoir fait confiance, parce que
c'est ça, le
il y avait beaucoup de déchets, hein, s'il faut le rappeler quand même. Mais il y avait, à l'intérieur de tout ça, il y avait quand même des moments de grâce, quoi.
Il y avait nos limites.
Nos limites.
C'est ça qui est important.
Nos limites.
Et le Camoulox, il vient d'où?
De nos têtes malades, de faire un jeu incompréhensible sur lequel on peut jouer, et puis que voilà, de balancer ça, et de se dire que les gens se disent, mais attends, j'ai pas compris trop les règles, mais je vais essayer de les comprendre. Et voilà, et c'était jouer avec les mots, jouer avec les chiffres, jouer avec
C'est le meilleur jeu du monde, ouais. avec la voix off de Philippe Dana.
Oui, Philippe Dana, ouais. qui faisait la voix off, il y a eu plusieurs voix off, mais Philippe Dana fait la voix off, donc voilà, et c'était de jouer sérieusement.
Avec des phrases qui sont devenues cultes, hein, oui, mais une moustache et je viens le Cendrillon, il y a Marcel Béliveau en opposition, quand
voilà,
c'est.
Exact. Oh là là.
Voilà, ouais, ouais. Moi, je suis une grande adepte.
Ah oui.
Elle est boniste, tout ça. Enfin, il y a quand même des personnages de fou.
Ah oui, là. Il est inquiet. Je vois Olivier Barou, ouais. Il est inquiet de voir
tous les. C'était les métiers.
Il pense qu'on n'a pas des têtes à être fan de Camoulox, mais en fait.
Non, j'ai pas dit ça. Je me dis que, enfin, moi, j'ai pas tout gardé en tête. Donc, je suis impressionné par.
Demandez-nous.
Mais il se dit surtout, j'ai créé un monstre.
Je crois que par c'est ça. Le meilleur des métiers, ça reste, je dessine des animateurs d'M6 avec mon pipi dans la neige. Ça m'a fait 10 ans.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
On se rappelle de tout, Olivier, tout.
Ah, c'est cool, c'est cool.
Ou marier des enfants, non, c'est dégueulasse. Ah, ou non, j'ai un paillasson welcome.
Je suis allergique.
Je suis allergique.
Michel Blanc, dans les années 99, vous écoutiez. C'est quand même une chanson qu'on ne peut pas écouter sans pleurer.
Exactement.
Si on est concentré sur les paroles.
En fait, ça n'est pas ce que je me passais jour et nuit. Pour moi, c'est une des plus grandes chansons françaises, il n'y a aucun doute.
De toute l'histoire de la musique, on est d'accord.
Ouais. La petite histoire de ça, c'est que le film que j'ai fait à ce moment-là, qui s'appelle Mauvaise passe, parce qu'on m'a obligé, la production m'a obligé à renoncer à mon titre.
Qui était quoi ?
Peu m'importe si tu m'aimes.
D'accord.
Et je trouvais ça bien pour un film qui parle d'une escorte.
Oui, bien sûr. Hein,
non, là, il y avait le jeu de mots entre faire une passe.
Et d'ailleurs, dans le film, à la fin, ça se termine par la chanson. Mm. Bon, mais il n'y a rien eu à foutre. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont pris ce titre en grippe en me disant « Mais non, mais ça ne veut pas dire ça. C'est peu m'importe, virgule, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Enfin, c'est pas peu m'importe si tu m'aimes. » Je dis « Écoutez, vous vous enculez les mouches, là. »
Et ben, c'est un bon titre.
Ouais. Ils les ont enculés.
Le titre.
C'est sur les tournages, on dit que c'est le jeu de titre.
Ce qui fait qu'en me poussant, parce qu'on était quand même à un mois et demi de la sortie, le titre était toujours refusé, que j'ai pris la première connerie qui m'est venue, je leur ai proposé, ils ont dit « Oui, c'est ça, voilà, mauvaise passe. » Parce qu'il y a le jeu de mots sur
passe. C'est ça.
Ouais. Ben oui, mais c'est nul. Voilà, ouais. Je vous le dis très franchement, c'est le titre le plus nul que j'ai trouvé.
J'ai l'impression que c'est toujours pas digéré comme histoire.
Non, ouais. C'est pas.
Et c'est un film que vous avez écrit pour Daniel Auteuil.
Oui.
C'était vraiment que pour lui.
Oui.
Que vous avez tourné aussi en anglais.
Oui.
Donc là, en difficulté supplémentaire, j'imagine qu'en réaliste, ça doit pas être complètement simple. C'était un rêve de tourner.
Je voulais tourner dans Londres.
Ouais.
Mais je voulais pas tourner dans Londres comme un Anglais. Un londonien le ferait, parce que même si je connaissais vraiment bien Londres, je suis pas de là-bas. Donc je voulais le
Michael White.
Qu'il y ait Sir Michael White. C'est pour ça que j'ai regretté de pas avoir le passeport, parce que bon, je serais jamais Sir Michael. Mais non, je voulais que le personnage nous montre le Londres de quelqu'un qui ne connaît pas Londres et qui le découvre. Donc c'est pour ça qu'il est français. Pourquoi Daniel ? Parce que j'adore toujours Daniel et que c'est un grand comédien. Quoi.
Nous recevons Marc-Olivier Sebag, puisque nous parlons de ces Tuches 4 qui sortent aujourd'hui au cinéma. Bonjour Marc-Olivier,
bonjour.
Merci de venir à ce
bonjour.
Micro. Vous êtes délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français. On disait tout à l'heure, avec Olivier Barou et Michel Blanc, que la situation était forcément mécaniquement à cause de la pandémie et de peut-être de la crainte de certaines personnes de retourner au cinéma. À tort d'ailleurs, parce que s'il y a bien un endroit qui n'est pas une source de problèmes ou de clusters, ce sont bien les salles de cinéma extrêmement bien aérées, bien mieux que n'importe quel bus ou métro, sauf qu'il y en a un qui sert pour aller au boulot, l'autre qui sert pour les loisirs, donc ça ralentit de combien d'ailleurs? De 30%?
De 25%.
25%.
De 25%. En fait, on peut voir les choses de deux façons. Soit on dit que les trois quarts des gens sont déjà revenus au cinéma, ce qui est formidable parce qu'on a été fermé pratiquement un an, enfin 300 jours, plus les périodes de jauge, etc. Et il y a quand même 75 millions de personnes qui sont revenues au cinéma depuis notre réouverture du 19 mai. Mais effectivement, il y a encore 25% des gens, des spectateurs qui ne sont pas là, parce que certains ne sont pas vaccinés, et il faut se vacciner, d'une part pour se vacciner, d'autre part pour aller au cinéma. Donc ça, c'est vraiment...
Pour se protéger et protéger les autres. Est-ce qu'il faut avoir le masque dans la salle quand
Il faut avoir le masque dans la salle, il y a le pass sanitaire. Les cinémas, c'est complètement étanche. Hein. Le pass sanitaire est strictement appliqué, et nous, depuis le 21 juillet, et quand on regarde les chiffres de l'Institut Pasteur, il n'y a aucun doute, les cinémas, c'est parmi les lieux les plus sûrs.
Il y a eu beaucoup de films qui étaient retenus, stockés, en attendant de pouvoir être à nouveau diffusés. Est-ce qu'il y a eu un engorgement, un bouchon créé par ces films qui attendaient de sortir?
C'était une crainte qui était réelle, mais les professionnels du cinéma, les distributeurs, les producteurs, les exploitants de salles faisant bien leur travail, en fait, finalement, les choses se sont étalées sur toute la durée et... Sur les 6 mois qu'on vient de vivre, il y a eu à peu près la moitié des films habituels qui est sorti. C'est-à-dire qu'on est sur une ligne tout à fait finalement normale. Il y a un changement qui est que les films restent plus longtemps à l'affiche, donc continuez à aller voir les films qui sont déjà sortis. On peut parler de Aline, on peut parler de L'Événement, voilà, si on parle de deux films qui sont sortis il y a quelques semaines. Continuez à aller les voir quand vous aurez vu Les Tuches ou avant d'aller voir Les Tuches. Mais c'est un changement dans le comportement des spectateurs.
Alors justement, ce changement de comportement, est-ce que le succès dû à la pandémie des plateformes Netflix, Amazon, Apple, Disney et autres a attiré un public devant les écrans maison plutôt que d'aller au cinéma? Est-ce que cette déperdition de 25% ne viendrait pas de là?
Alors, elle vient de plusieurs choses. Donc, on a parlé des gens qui n'ont pas de passe sanitaire, mais il y a aussi effectivement des gens qui ont changé de vie, qui ont changé d'habitude, qui télétravaillent et qui sont aussi, qui ont appris à utiliser les plateformes.
D'autant que maintenant, les films pourront être vus 6 mois après leur sortie, d'après ce que j'ai vu.
Sur les chaînes payantes, sur les plateformes.
D'accord.
Mais ces gens qui ont changé de vie, il faut qu'ils reviennent au cinéma, qu'ils complètent. Et d'ailleurs, on voit que dans toutes les activités collectives, que ce soit les transports, le théâtre, le cinéma, on est à ce niveau de moins 25%. C'est-à-dire qu'il faut redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens.
Partager un plaisir, partager un film dans une salle, c'est pas pareil que ça devant
son
écran.
C'est nulle part ailleurs. Vous pouvez voir Les Tuches une fois à la télé, 1000 fois à la télé, mais vous les verrez qu'une fois au cinéma.
Évidemment.
La première fois que vous verrez le film, vous l'irez plusieurs fois, mais la première fois, c'est toujours... mieux qu'après.
Non, et puis c'est une sortie en famille, c'est un spectacle, c'est un événement, il faut garder ça. Merci Marc-Olivier d'être venu.
Merci à vous.
À ce micro, le héros du jour, Daniel Morin.
Oui, absolument. Et aujourd'hui, les amis, mon héros aurait très bien pu être une héroïne. Oui, Sana Marin aurait pu être cette personne exceptionnelle que je distingue chaque jour. Cette femme qui n'est autre que la première ministre finlandaise et cas contact. Elle fricote avec des covidés. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait, Sana? Au lieu de rester chez elle, au coin du feu, à lire les mémoires d'un flocon, elle est sortie. Et attention, elle n'est pas sortie pour aller faire un petit tour de traîneau, pour faire pisser ses huskies. Non, elle est allée en boîte.
Non.
En boîte, alors qu'elle est cas contact. C'est une honte, diront beaucoup. C'est un acte de résistance, diront certains. Dont moi. Oui, Sana ne s'est pas laissée endormir par le discours sanitophobique ambiant. Non, le virus, elle lui dit frac. Elle veut danser, Sana, elle veut danser, alors elle y va. Elle se trémousse comme si demain n'existait pas. Pour moi, ce geste est dangereux et héroïque à la fois. Toutefois, Sana n'est pas mon héroïne du jour. Non, mon héros du jour est un habitant de Meurthe-et-Moselle. Un homme qui, suite aux plaintes de ses voisins, a été appréhendé par les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui ont trouvé que son état... laissait penser qu'il avait quelque peu consommé de l'alcool. Petit tour à l'hôpital de Lunéville, prise de sang et le verdict tombe. Alors avant de vous donner son taux d'alcoolémie, je tiens à vous préciser qu'au-dessus de 1,5 g d'alcool dans le sang, on est proche du coma éthylique. Et là, mon bonhomme, il était à 7 grammes.
Mais non.
7 grammes. Oh ben là, forcément, c'est mon héros du jour. Il est là. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi? Eh bien, parce que là aussi, on est en plein acte de résistance. Oui, parfaitement, résistance à l'époque, qui est, on ne peut plus, liberticide. Et que boire trop, c'est pas bien. Et que prendre de la drogue, c'est mal. Que tabasser ses voisins, c'est barbare. Et patati, et patata. Mon monsieur 7 grammes, il s'en fout. Il a soif? il boit. Et Dieu sait qu'il a soif. Et moi, les gens qui résistent, je les aime. Et j'ai envie que la nation soit reconnaissante. Nous sommes en pleine cinquième vague de Covid. Les Français n'ont pas le moral. À n'en pas douter, cette année, la dinde aura un goût amer. La bûche sera fade. C'est pourquoi j'appelle tous les Français à se saouler la gueule, à se saouler mais comme jamais, que la France entière devienne la Meurthe et Moselle. Et pour que tous les Français se sentent concernés, je vais demander à ce que notre président soit mon écho. Monsieur le Président, Manu, le pays n'est pas au mieux, tu le sais. C'est pas entièrement de ta faute, mais bon. Tu as vu, comme tout le monde, le sondage d'hier qui donne Valérie Pécresse comme prochaine présidente. Alors, si tu veux que l'opinion soit à nouveau favorable pour toi, vas-y Franco, vas-y à fond. Encourage ton peuple à la consommation sans limite d'alcool. Annule le délit de conduite en état d'ivresse pendant la période des fêtes. Crois-moi Emmanuel, un peuple bourré est un peuple prêt à revoter pour celui qui tient le tire-bouchon. Oui, monsieur Setgram est mon héros, en tout cas, c'est le mien personnel, il est dans mon cœur. Il se tient aujourd'hui tout près de celui qui est un de mes héros éternels, ce Polonais anonyme qui détient le record d'Europe avec dans le sang pas moins de 13,74 grammes. Et que dire de ce Sud-Africain qui, à la descente de sa camionnette il y a 11 ans, a été contrôlé à 16 grammes. Wow. Mais il était mort. Je peux vous dire que... C'est champion du monde.
Merci, Daniel Morin. Tanguy Pastoreau, de quoi parles-tu aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de Tanguy David, un autre Tanguy que moi qui est noir. C'est rare parce qu'en général, les Tanguys sont des Bretons livides, finis à la bière de Morlaix. Tanguy David reçoit des menaces. Pourquoi ? On en parle après le journal.
On en parle et jusqu'à midi et demi, nous parlons des Tuches 4 avec Michel Blanc et Olivier Barou. La bande originale avec Linda Kadouri, Morgane Cadignan, Fanny Ruet, Tanguy Pastoreau, Daniel Morin.
Bonjour.
Et nos invités Michel Blanc et Olivier Barou. Au casting des Tuches, très 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 bon film qu'on vous encourage à voir, drôle, intelligent, magique aussi, on peut le voir en famille, c'est ça qui est bien, il y a une lecture pour les enfants. Alors il y a vraiment des vannes, pour avoir eu la chance d'être dans une salle où il y avait des enfants, il y a des vannes où tout le monde rit en même temps, puis il y a des vannes où les enfants rient, il y a d'autres vannes où les parents rient, mais en tout cas tout le monde sort heureux de la salle.
Il y a des vannes où t'es le seul adulte à rire avec les enfants, c'est là que tu te dis qu'intellectuellement...
Ouais, ça veut dire que t'es resté jeune.
C'est pour ça.
Léni Joubu, Lila Poulet-Berenfeld, Jérémy Lopez de la Comédie Française, Isabelle Nanty deux fois j'ai envie de dire, François Berléand, Théo Fernandez, Pierre Lottin, Sarah Stern, Claire Nadeau, Michel Blanc et Jean-Paul Rouve qui pendant les infos m'a envoyé un message, Michel, parce que il vous a entendu dire à l'antenne que vous étiez son ami, il m'a répondu Michel ment, ce n'est pas mon ami, je tenais à vous le dire.
Oui, mais enfin je voulais essayer, hein, des fois ça passe mais...
Non, mais là ça passe pas. Vous
passez
à la radio.
Non, ça passe pas du tout. Mais bon, vous savez, c'est dans les promotions, on essaie de dire que
bien sûr,
ça s'est bien passé. En fait, ça a été une chérie.
La grande famille du cinéma.
Ça a été une chérie.
Et sur un malentendu.
Voilà.
C'est ça. Ça aussi, ça fait partie des phrases cultes et incontournables. La force des Tuches, justement, Olivier Barou, c'est de jouer sur tous ces tableaux, c'est-à-dire des vannes qu'on peut qualifier de potaches, mais qui restent des vannes qui font rire immédiatement dans un éclat de rire. D'autres, on a presque envie de revoir une deuxième fois le film pour décortiquer d'autres choses qu'on n'avait pas vues.
C'est comme un millefeuille.
Et des valeurs. C'est ça, il y a plusieurs couches.
Plusieurs couches, voilà. C'est des strates. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on est 5 auteurs. Hein, donc chacun amène sa petite dose d'humour personnel, et puis on essaye de mélanger tout ça pour avoir un film quand même qui tienne, qui soit cohérent, et puis tous les rires sont autorisés. Enfin, pas tous les rires, parce qu'on fait attention à pas faire de rire, à de mettre de trop de politique, ou de donner trop son avis, ou être donneur de leçons, voilà, etc. On essaie d'être drôle, tout simplement. C'est ça le but de la comédie, faire rire. Et après, on voit ce que ça donne.
Et ça fonctionne. Ce sont les Tuches 4 au cinéma à partir d'aujourd'hui, et j'allais dire déjà bien classé, puisque le principe de calculer le nombre d'entrées, c'est de prendre en compte aussi la tournée d'avant-première.
Oui.
Et j'ai vu que vous étiez deuxième plus grosse entrée de la semaine.
Oui, c'est ça, parce qu'on a fait une avant-première avec équipe et puis une deuxième dimanche, et donc on est déjà à plus de 100 000 entrées. Oui, donc c'est assez dingue. Mais après, voilà, il faut rester humble aussi et ne pas crier victoire. Il faut donner envie aux gens. Mais en même temps, c'est bien. Les gens sont allés le voir dimanche soir en avant-première. Ils étaient au rendez-vous. Ça nous fait plaisir. Ça nous réconforte.
Et vous qui rêviez de tourner donc avec Jean-Paul Rouve, que vous n'aimez pas, Michel Blanc, comment s'est passé ces Tuches ? Parce que quand vous dites j'adore les Tuches, j'ai, voilà, je n'osais imaginer en faire partie ou peu importe, ou j'ai tout de suite accepté quand on me l'a proposé. Est-ce que c'est à la mesure du rêve que vous caressiez de
le tournage?
Ouais.
Ah oui, je me suis, oui, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que j'ai retrouvé une forme de liberté dans la comédie que je n'avais pas eue depuis très très longtemps. Sans citer de titre, que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Une folie qui est très rassurante, quoi, et puis qui vous stimule. Voilà, tout n'est pas permis parce que, encore une fois, il y a un metteur en scène, et que, mais ça n'empêche pas de temps en temps de dire hey, cette petite connerie-là, je pourrais la. Ouais. Et si ça lui plaît,
ça passe.
Oui, vas-y.
C'est ça. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de l'école de la rigueur, est-ce que la comédie, on le sait, on pense à Fedo notamment quand tu parlais de la puce à l'oreille tout à l'heure.
Mécanique implacable.
Voilà, on sait que tout est structuré, rythmé. Le rythme, c'est ce qu'il y a de plus important dans le rire et la comédie.
Oui, enfin, faut que ce qu'on raconte soit drôle aussi.
Oui.
Hein. Mais non, mais parce que voilà, je prends certains discours,
tabou,
vous verrez,
je vais les
rythmer, vous n'allez pas vous marrer. Mais le truc, c'est que c'est extrêmement musical. Enfin, moi, comme je suis très amateur de musique classique, je connais un peu la manière dont c'est fait. Or, c'est exactement le même principe. Et ça, tu vas abonder dans mon sens. Au montage, à une image près, tu fais plus ou moins rire. Une image près, c'est un 24e seconde.
Ouais,
eh bien, c'est d'un seul coup, tu as balancé la vanne. Allez, deux images trop tôt, ça fait vaguement sourire certaines personnes. Au bon moment, ça swing. C'est comme une pêche de batterie sur un truc.
C'est ça.
Et ça n'est que ça, la comédie.
Est-ce qu'il y a, Olivier Barrault, des incontournables dans les tuches, des signatures? Il y a évidemment le des frites, ça, on peut pas passer à côté. Il y a Bouzeul.
Il y a Bouzeul. Là, on a remis un petit coup des cartes parce que ça a fait le tour, les cartes dans le 2. Donc, voilà, on peut perdre une carte bleue, mais pas deux. Enfin, 15, mais pas une. Donc ça, on l'a remis, mais d'une manière un peu différente. Parce qu'on voulait
raconter comme ça, le mec, il a pas vu.
Les cartes, je pense que tout. Il suffit d'aller voir sur Internet et vous allez comprendre tout de suite. C'est Jean-Paul Rouve, Jeff qui perd ses cartes bleues et qui explique qu'on peut perdre une carte mais pas 15, deux cartes mais pas 15 et il va jusqu'au 15. En fait. C'est très très long.
Et donc là, avec une sorte de coupure, la scène des cartes, on sait que si vous ne vous la supportez pas, on la coupe.
Voilà, exactement.
Mais là, par exemple, pour en revenir à l'art de la comédie, on peut perdre une carte sur 15, deux cartes, ainsi de suite. Il y a un moment où si on s'arrête trop tôt, c'est pas drôle.
Absolument.
Et de faire le tout pour la vanne et d'aller à 15 sur 15, là ça devient drôle.
Non, et puis il y a pas seulement ça, il y a à l'intérieur le temps qu'on met perdre une carte, c'est possible.
C'est ça.
Mais perdre deux cartes, vous voyez, je mets un petit temps.
La rupture.
Et c'est plus drôle s'il y a un petit temps.
Parce qu'il faut se dire non, il va pas faire pas y aller. Quoi.
Si vous dites perdre une carte, c'est possible, mais perdre deux cartes, c'est pas possible, perdre trois cartes, c'est pas possible, c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est que les temps entrent. On sent qu'il a réfléchi avant de dire la connerie suivante, parce que c'est un con qui réfléchit à ce moment-là.
Bien sûr.
Et comme signature, il y a aussi le rire de Jeff.
Oui, le rire de Jeff. Oui. Le rire de Jeff, plus sur plein de choses, mais ça va même.
Non, puis la voix de Pierre Lotin aussi, parce que quand on l'avait reçu aussi, mais il a créé ce personnage. C'est incroyable.
Il s'est inspiré des aliens de Mars Attack de Tim Burton. Qui l'ont filmé. Il s'est vraiment inspiré de ça.
Mais c'est fascinant parce qu'il le fait. Moi, j'étais le premier jour où il l'a fait sur le plateau, j'étais
Baba.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Hey, salut, ça va.
Et puis il y a un. Oui, puis la voix de Jean-Paul Rouve aussi est une signature avec Jeff. Et puis il y a le héros du film qui est le jouet, en l'occurrence, qui aurait pu être un produit dérivé des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, vous n'avez pas poussé l'américanisme à aller jusque là. C'est-à-dire à le mettre en vente.
Non, on n'est pas.
Ça aurait été un carton. Hein.
Ouais, mais alors pour le coup, peut-être qu'on verra si le film cartonne, on le fera, mais pour une bonne œuvre, quelque chose d'intéressant.
Une
bonne cause, ouais, voilà.
Tuche 4, c'est au cinéma, c'est aujourd'hui, et Tanguy Pasturo, c'est tout de suite.
Avant-hier, l'espace de 5 minutes, j'ai été heureux. Bah, ça fait bizarre, on a une espèce de chaleur qui envahit le corps. J'ai même ressenti du bien-être. Mon organisme, pensant qu'il y avait un problème, m'a plongé dans le coma. Je vous explique, j'étais sur Twitter, le réseau social des asociaux. Je répondais, va te faire voir, fils de yinche, à des gens qui m'écrivaient, tout ça avec nos impôts, j'ai mal à ma France. Bon. Puis, j'ai regardé à droite les TT, les sujets les plus discutés sur Twitter. Et là, en quatrième place, je vois marqué Tanguy.
Dans ma tête, à ce moment-là, il y a Patrick Sébastien qui lance des serpentins sur Pierre-Jean Chalençon déguisé, donc habillé comme d'habitude. Je me dis, Tanguy, mon loulou, ça y est, la France reconnaît le plus noble de ses fils. Tu es entêté, à toi la gloire, les excès, la tourtelle, le sponsoring. J'attendais un appel de Damar pour un shooting en soupule devant une pancarte avec écrit « Il a bien chaud, le Pastureau ». Il y a 25 ans, on aurait mis « Il est chaud ». Mais c'est fini, à mon âge, aujourd'hui, si une fille montrait ses seins, je lui dirais « Tu pensais à faire ta maman, faut être prudente hein. ». Puis je lui jetterai une peau de mouton factice pour qu'elle se couvre, parce que dans l'idéal, ça se passerait chez Casa, que j'en profite pour faire en même temps 2-3 achats déco. Ah bah le sexe pour le sexe, ça va. Hein. Quand je pense à ces gens qui vous proposent un dernier verre, vous montez, et dans la chambre, il n'y a pas un recueil de mots fléchés, mais la vanité de ces personnes. Si un monsieur tout nu, c'est suffisait au bonheur, on irait tous au bois de Vincennes après 22 heures. Bref, j'ai vu écrit Tanguy en tendance Twitter, j'ai appelé Inter en leur disant je suis devenu une star, je quitte la radio, au fait je ne suis pas de gauche, hein, provocation quoi. Et puis en cliquant sur Tanguy, le mot, pas moi, je ne clique pas sur moi-même, c'est chatouille. J'ai réalisé qu'en fait, il s'agissait d'un autre. Voilà, j'ai rappelé Inter en criant « Vive la Révolution » à Bayer Eric Ciotti. Et je vous explique, en fait, celui qui a percé, ce n'est pas moi, c'est Tanguy David. C'est donc la loose. D'autant que Tanguy David, il y a deux jours, était un total inconnu. Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance, à côté, niveau notoriété, c'est Jay-Z. En fait, Tanguy David est étudiant en droit à Caen et il soutient Éric Zemmour, cet individu qui a commencé à la télé et a fini en politique, l'inverse de Ségolène Royal. Le week-end dernier, il était à la finale de Kung Fu de Villepinte, qui a été surnommée Meeting d'Éric Zemmour. Il s'est collé juste derrière le candidat, comme plein d'autres jeunes. Mais le souci, c'est que Tanguy David est noir, comme bien d'autres gens avant lui. Je pense à Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor ou la version grand public, Basile Boli. Alors, moi, je ne suis pas raciste. Attention, pas par sectarisme. J'ai moi-même des amis racistes. Donc, quand j'ai vu Tanguy David derrière Zemmour, j'en ai rien pensé, sinon qu'il était seul, entouré de blancs, comme dans une soirée de sexe interraciale dont l'organisateur noir serait allé débaucher des gens uniquement à Neuilly. Mais sur internet, Tanguy David a été couvert d'insultes. Il explique avoir reçu des messages disant, je cite, « T'es un faux négro ». Parce que bien sûr, l'ensemble des gens de la même couleur doivent penser pareil. On va réunir Pécresse et Philippe Poutou et leur dire « Bon, les Blancs, vous arrêtez, vous faites un câlinou ». Un autre message, « Nique ta race ». Alors, étant prouvé que les races n'existent pas, la bonne formulation est « Nique l'ensemble vide », ce qui peut être très insultant du point de vue des physiciens. Enfin, la vulgarité de ce terme, « Nique ceci, nique cela », et c'est trompeur. Moi, pendant longtemps, quand quelqu'un citait « Nique Cave », je criais « Mais enfin, laissez-le, il est déjà assez triste ». Enfin, Tanguy David a reçu des menaces de décapitation. Et wow, ça, c'est grave. Ouais. Parce qu'autant avec deux doigts en moins, on se débrouille, on fait des demi-checks à ses amis. Autant sans tête, c'est compliqué. Hein, les autres pensent que vous faites de la gueule parce que vous ne souriez plus. Et à Disneyland, au moment d'enfiler les oreilles de Mickey, eh ben, vous êtes comme un couillon. Hein. Tout ça pour vous dire qu'on peut désapprouver la présence de Tanguy David au meeting de Zemmour. Mais bizarrement, pour les 12 000 autres Gugus présents, ça n'a posé aucun souci. En fait, si on est noir, on a juste le droit d'être de gauche. Anne Hidalgo, elle peut prendre tout le monde. C'est pour ça que c'est encore pire quand on réalise qu'elle n'a personne. Elle a un champ des possibles infini en matière d'origine ethnique. On a l'impression de voir une vieille hippie fonce-dé qui accueillerait l'ensemble des enfants de Joséphine Baker avec le manuel du vivre ensemble. Résultat, ils sont deux, les mecs. Et cette histoire me rend triste parce que j'appartiens à la même communauté que ce monsieur. Non, non, je ne suis pas noir. Je le dis pour les personnes âgées qui n'ont pas YouTube et n'ayant jamais vu ma tête, m'imagine comme le cinquième membre des Magic System. Bon. Non, je parle de la communauté des Tanguy. Lui aussi, comme moi, on a dû lui demander sur 15 ans s'il habitait chez ses parents. Et là, en plus, on décide pour lui ce qu'il doit penser. Ça fait beaucoup. J'imagine qu'il doit camper devant l'appart de Boris Cyrulnik. Taras, pour qu'on lui file des tutos sur la résilience. Tanguy David ensuite alors a déclaré « C'est moi qui ai voulu me mettre derrière Éric Zemmour, tout seul, parce que je voulais être le plus près possible de lui. » Voilà, je pense que si on le laissait faire, il se glissait avec Zemmour dans son pantalon et il l'accompagnait chez lui, où sa femme et sa conseillère lui auraient dit « Oui, enfin, on commence quand même à être nombreux. » Alors, à propos de Tanguy David, j'ai aussi lu le terme « nègre de maison ». Hein, cette horreur qui suggère qu'un noir est forcément utilisé par un blanc. Et si Tanguy David, en fait, n'était utilisé par personne? Mieux, s'il avait son libre arbitre. Moi qui suis blanc, je vote Pécresse, Hidalgo, Mélenchon, Zemmour, ça passe. On s'en fout. Mais quand on est noir, on est forcément l'alibi, l'objet de quelqu'un. La seule solution, en fait, pour qu'on foute la paix à Tanguy David, ce serait que l'ensemble des noirs de France rejoignent Éric Zemmour. Hein, si son prochain meeting, il y a 80% de noirs, ok, lui fera un infarctus. Bon. Mais cet autre Tanguy, il sera peinard. Et nous, bah, on rigole. Quand même, hein, parce que...
Merci Tanguy Bassot.
Et Tanguy Passureau, on te retrouve lundi à Paris, aux Folies Bergères.
Oui.
Ouh. Grosse date.
Les scénaristes Julien Hervé, Philippe Echelin, Nessim Chikaoui, Jean-Paul Rouve et Olivier Barou. Olivier Barou, comme Jean-Paul Rouve, à l'écriture et devant la caméra, mais Olivier Barou, en plus, réalisateur, au montage aussi, j'imagine, puisque Michel Blanc parlait tout à l'heure de l'importance de la moindre seconde ou de la moindre image dans
oui,
le rythme.
Le montage, oui, c'est cassé. C'est 4 mois, 5 mois, seul, isolé, avec son monteur, avec les images, et on est tout seul là.
Et la frustration de couper aussi, d'avoir tourné des scènes et de se dire non, ça va pas.
Ouais, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui ont été légèrement rabotées, et ça c'est toujours un problème. Mais voilà, c'est le cinéma, c'est comme ça, on est obligé d'enlever. Voilà.
Non, mais c'est le cinéma, on est obligé d'enlever à cause de quoi?
Du rythme. Ah oui, c'est jamais pour les comédiens, durée du film, le rythme. À ce moment-là, on n'a pas vu dans le scénario à l'écriture que ce moment-là n'allait pas coller, et donc on l'a tourné quand même. Donc voilà, mais ça fait partie du métier.
Et puis il y a quelques effets spéciaux, notamment celui extrêmement réussi. Puis comme moi, je vais faire comme pour les magiciens, je vais pas demander quel est le truc, mais simplement en profiter et le voir, c'est-à-dire les scènes d'Isabelle Nanty avec Isabelle Nanty. Oui. Formidable réussite.
On peut tout faire maintenant.
C'est génial. Voilà,
c'est Alain Carsou qui a fait les effets spéciaux. Pour Isabelle, ça a été un peu compliqué parce qu'elle a dû jouer pas mal de fois avec des balles de tennis. Donc elle était seule à table.
J'avais dit que je voulais pas savoir le truc.
Non mais il y a pas. Je t'explique pas le truc. Je t'explique juste que pour des raisons techniques, voilà, c'est pour les actrices, c'est compliqué pour les comédiens et comédiennes d'accepter ça.
Ce qui m'intéresse, c'est la réplique, parce que vraiment les deux manières qu'elle a de jouer, d'interpréter, on connaît le talent et le don d'actrice d'Isabelle Nanty, mais de pouvoir donner une réplique sans l'entendre.
Alors si elle l'entendait, elle l'entendait au son, elle entendait ce qu'elle avait fait auparavant en Cathy, elle l'entendait au son uniquement. Donc elle jouait seule.
Mais sauf qu'il y a une première prise où elle a fait les premières répliques sans qu'il y ait la réponse.
Ça pour le coup c'est une doublure qui faisait la réponse, ouais c'est ça, et après on balançait ce qu'elle avait fait. Ouais, non, c'est techniquement compliqué pour une actrice, mais elle s'en est bien sortie, franchement.
Oui, absolument. Et puis une belle équipe de scénaristes, belle équipe d'acteurs. Là, j'imagine que les Tuches 5 sont déjà quelque part dans votre tête. Oui. Vous êtes fidèle à cette bande, puisque la famille est constituée et nous on est attachés. Oui. Il faut que toutes les actrices, tous les acteurs
acceptent
de continuer.
Ah oui, oui. De toute façon, le jour où il y en a un qui partira, je pense que... En tout cas, moi, j'arrêterai.
À part le faire dans le scénario de faire partir l'un des enfants,
Même pas. Moi, je pense que j'arrêterai. Après, la production, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'arrêterai, c'est sûr. Sûr et certain. On ne peut pas revenir... Il y a des films qui le font, de changer les acteurs. Et moi, pour moi, c'est pas possible.
Et la malice, contrairement à François Berléand, qui n'a jamais été malin, votre malice, Jean-Paul...
Moi, c'est Michel.
Oui, votre malice, c'est d'être le beau-frère de Jean-Paul. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans la famille.
Oui.
Par alliance.
Oui. Mais de toute façon,
c'est une pièce rapportée, comme on dit dans les.
Oui, mais vous êtes dans la famille. Mais vous êtes dans la famille.
Mais à mon avis, Michel, il y a de grandes chances qu'on te revoie l'once.
C'est ça.
Je peux d'ores et déjà te le dire.
Eh bien, écoute, c'est une très bonne nouvelle. J'ai bien fait de venir ce matin.
Voilà. C'est même un scoop.
Oui, c'est un scoop.
Oui, parce que je ne peux pas raconter ce que sera le 5, évidemment.
Non,
mais il y a de grandes chances qu'il soit là. On en a parlé avec Jean-Paul. Et voilà. Alors, peut-être pas sur tout le film, hein. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que tu apparaisses.
Non, mais bon, les deux, trois premières secondes, je passe et je meurs. Non, mais c'est la porte s'ouvre, je fais « Ah !»
Merci, Michel Blanc.
D'autres événements dans le monde de la culture, à part la sortie des Tuches 4, Leïla.
On va parler des prochains Grammy Awards. La liste des nommés vient de sortir. Et la liste fait déjà polémique, pourquoi donc ?
Il n'y a pas cette femme.
Non.
Il y a trop de femmes.
Il n'y a pas eu un bug où des gens ont été crédités
Non.
Alors qu'ils ne jouaient pas.
Non, ça tient vraiment au nom de certains nommés.
Ah, qui sont...
Est-ce qu'il y a des pédophiles encore ?
Non, harceleurs sexuels, violeurs.
Voilà, absolument. Et parmi cette liste-là, il y a Dave Chappelle, Louis C.K. et Marilyn Manson. Et les trois noms que je viens de vous citer ont tous des dossiers aux fesses, on va le dire comme ça.
Dave Chappelle, ce sont des vannes, hein,
il est accusé de transphobie. Il est accusé de transphobie pour son spectacle The Closer.
C'est pas pareil de reprocher des vannes, oui, c'est ça, que des actes, c'est ce que tu dis.
Louis C.K., je crois que c'est lui, c'est plus compliqué, je crois.
C'est les exhibitions sexuelles qu'il a reconnues devant plusieurs... Il a fait ça en 2017 devant plusieurs femmes. Les vieux mecs,
si on peut pas
Eh ben c'est dommage.
Si on peut plus montrer.
Et Marilyn Manson, lui, il est accusé de viol, d'agression sexuelle et de violence.
Alors là, c'est plus compliqué.
Il est bien tordu. Ouais.
Voilà. Séparer l'homme de l'artiste, c'est un débat sans fin ou c'est un débat qui ne sert à rien ?
c'est un débat qui sert avec, oui. Moi, je pense qu'à un moment donné, oui, on peut pas tout accepter. Donc, même si on a un grand artiste, mais qui a fait des saloperies derrière, on va pas.
Oui, il y a quand même. Je suis assez d'accord sur le fond, c'est-à-dire que c'est assez difficile d'avoir de l'admiration pour un salopard.
C'est ça.
Ou pour un malade mental. Mais, par exemple, moi qui aime bien la musique classique, je peux vous dire que le compositeur Richard Strauss était un très grand compositeur et du début du XXe, et comme il n'a pas été très résistant à Adolphe, bien, c'est un compositeur qui était interdit en Israël. Alors qu'on ne jouait pas en Israël, je ne sais pas où ça en est maintenant.
Karajan aussi, Karajan, il a été un peu inquiété.
Karajan, il a dirigé pour l'anniversaire, je crois, du Führer. Vous voyez, oui. Comme je prononce bien l'allemand, parce que je me prépare.
Mais Leïla, tu avais dit que des rues étaient débaptisées en Allemagne, Richard Strauss.
Absolument, ils envisagent aussi, ils vont le faire, clairement.
Et ils font Richard Strauss, parce que c'est pas, c'est moins difficile.
Humour allemand.
Ça marche toujours, bravo.
Ça, les vannes allemandes, ouais. Franchement.
On s'en lasse pas.
Ah non. Une autre question,
si je vous dis Lady Gaga, Will Smith, Jane Campion, Denzel Washington ou Joaquin Phoenix, c'est un casting annoncé pour quel événement ?
Le prochain dîner chez Michel Blanc.
Non.
C'est un film ?
Non plus.
Ils sont dans les Tuches 5.
Non plus.
Une série pour une plateforme ?
Non plus.
Wow. Non, c'est
une voix de dessin animé.
Un événement.
C'est une remise de prix ou un truc comme ça, les Oscars.
Absolument, ce sont les favoris même pour les Oscars 2022. Résultat, le 27 mars. Est-ce que c'est une cérémonie que vous suivez quand elle passe à la télévision? Vous veillez
à 14h du matin.
J'ai eu la chance de pouvoir y aller deux fois avec CAD pour une chaîne de télévision
Canal.
Voilà, pour Canal. Et on a vécu donc la cérémonie aussi à l'intérieur de la salle. Et c'est génial.
Et en quoi c'est génial? En quoi c'est si différent?
C'est juste complètement assumé, c'est du spectacle, c'est du show, les artistes sont dingues, et ils viennent faire le truc sans se pincer le nez, quoi. Et donc moi j'adore.
C'est pour ça que les Césars en France, c'est moins spectaculaire.
C'est très compliqué.
Quelque chose à dire sur les Césars?
Michel. Non mais c'est compliqué, voilà, on n'a pas cette envie-là.
Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas le jeu? Parce qu'on ne met pas en scène suffisamment?
C'est compliqué, quand moi j'ai travaillé sur la cérémonie avec Concade l'a présenté, c'est compliqué d'écrire des choses drôles pour les acteurs, les actrices, et tout de suite, ah non mais je peux pas dire ça, je peux pas faire ça, je peux pas arriver comme ça,
Les Français sont très chiants pour ça. Les acteurs français sont très chiants pour ça. Ils n'ont pas de professionnalisme dans ce sens-là, ils sont très très bons quand ils jouent la comédie.
Bien sûr.
Mais ce côté, on va au bout du fait qu'on représente quelque chose, eh bien, on accepte un texte qui fait partie de l'ensemble de la cérémonie. Chez nous, non. Tout le monde part en vrille, dans tous ses sens, fait la gueule, vient gueuler parce que sa concierge sort pas les poubelles, etc. On a une grand-messe au milieu. C'est difficile à regarder en France.
César, César du public.
César du public, qui a été inventé parce qu'il savait pas comment récompenser les comédies, donc ils ont fait ça. Moi, j'y suis allé, je l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que c'est Kat qui présentait, que c'est mon pote, et que ça a été un moment génial entre nous deux. On s'est retrouvés sur scène, mais autrement, bon.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, déjà, désolé pour Michel Blanc, qui, on l'a entendu ce matin, n'espère plus qu'à la mort, et en plus sur une table de veto, avec une seringue dans le croupion.
Forcément, on peut choisir un autre endroit.
Mais c'est dommage de se priver aussi. Bon, en tout cas, c'est une belle mort. Désolé pour les producteurs des Tuches 4, ici.
Richard Campierre.
On a fait ce qu'on a pu, à assurer la promo du film. Mais, ce matin, Jean-Paul Rouve était l'invité de Léa Salamé à 7h50. Il n'a pas été hyper optimiste malgré la promo géante faite au film.
Faut qu'on fasse gaffe. Alors là, en général, si on fait ça, c'est qu'on va pas faire d'entrée. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux en France. T'as soit un terre, soit les entrées.
Espérons que ça portera pas la poisse. C'est mal barré quand même. Désolé pour Nagui qui a passé toute l'émission à dire bravo Olivier Barou pour les Tuches 4 et qui espérait un petit merci en retour. Merci qu'il n'a jamais eu. Olivier a passé son temps à répondre. Non, Nagui, on était plusieurs à écrire. Non, Nagui, j'étais pas tout seul, on était plein. Non, Nagui, c'est un travail d'équipe. Un échec, mais Nagui va s'y recoller demain en disant pendant une heure et demie, bravo Eddie Mitchell, bravo pour cet album. Non, Nagui, j'étais pas seul, c'est un travail d'équipe. Oh, pauvre Nagui.
Eddie Mitchell sera en effet notre invité demain. Merci Michel Blanc, merci Olivier Barou.
Merci à vous.
Et bravo pour les Tuches 4.
Et merci Nagui.
Merci Nagui. Merci Nagui. Merci Carré Compagnie.